Bonjour à toutes et à tous. On pourrait appeler cette émission « Les malheurs et les bonheurs de Sophie ». Vous êtes dans l'émission « En revenant de l'Expo ». Et aujourd'hui, à la technique, nous avons Stéphane et Florian, qui est stagiaire du CRPF. Nous accueillons ici, dans cette radio, à Radio FM+, beaucoup de stagiaires qui, effectivement, parfois, vont se diriger vers la voie des métiers de la radio. Donc, merci à tous les deux. Et puis, alors, surtout, merci à Sophie Massot, qui est derrière le micro, qui est mon invitée du jour. Et dans Revenant de l'Expo, pour faire simple, bon, je rappelle quand même un petit peu le principe de l'émission. On parle de tout ce qui est art plastique, artisanat et beaux objets. Vous, Sophie, je vais dire que vous allez cocher toutes les cases.
Merci
vous
beaucoup.
Vous êtes créatrice, ça fait aucun doute là-dessus. Artisane dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que vous avez appris votre métier longuement.
Longuement,
et
oui.
Et que c'est peut-être toujours pas fini.
Et c'est toujours pas fini parce qu'on apprend toujours.
Et que vous donnez naissance à de très beaux objets et évidemment à chaque fois à des pièces uniques. Alors, pour tout dire, vous ne venez quand même pas d'un milieu d'artiste, mais chez vous, il y avait des dispositions pour tout ce qui touche aux arts manuels.
Oui, c'est vrai. On est en fait une famille de touche-à-tout. Transformer des choses de n'importe quel matériau que ce soit. Une sœur qui n'a pas appris la couture, mais qui est couturière. Un frère qui répare des vieux engins, des motos, des vieilles voitures, ce genre de choses. Enfin bon, voilà, et ça passe partout. Même voir la cuisine, qui est un art.
Qui est un art, absolument. Et par ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on vit, le fait de pouvoir transformer les choses, de leur redonner une deuxième vie, de savoir les réparer, c'est un gros avantage, qui n'était peut-être pas le cas quand vous étiez petite, c'était moins prégnant.
Ce qui est vrai. Mais moi, je crois qu'au départ, c'est de la curiosité. Je crois que si les gens sont curieux, ils s'intéressent à, je sais pas, à un morceau de bois, n'importe quoi, et ils peuvent le transformer, ils peuvent imaginer. Oui, au départ, c'est vraiment de la curiosité.
C'est-à-dire qu'ils mettent pratiquement l'objet en perspective, quoi, de ce qu'il pourrait être.
Oui, bien sûr. Et puis l'améliorer à leur goût.
Oui, c'est ça. Créer, finalement, en définitive.
Exactement.
Et faire d'un objet qui souvent peut être banal ou tiré en multiples exemplaires, un objet qui sera différent.
Un objet qui sera différent et surtout, c'est quand on travaille avec ses mains, c'est une décontraction. Moi, je dis que quand je peins, c'est mon médicament.
Est-ce que ça vaut la méditation?
Ah, totalement. Alors là, franchement, oui.
C'est-à-dire que vous êtes totalement plonger dans ce que vous faites.
Oui.
La maison peut tomber, vous êtes dans votre truc.
Je sais
peut-être pas
si
quand même, non.
Non, mais disons, oui. Et puis, je crois aussi, la création, c'est que on fait nos courses, on est toujours dans cette création. On élabore, je sais pas, en ce moment, là, je suis en train d'élaborer des pièces toutes nouvelles, et je cherche la bonne couleur.
Ça occupe l'esprit.
Il y a toujours un mouvement dans la tête, quoi.
C'est ça. Et un bon mouvement.
Et un bon mouvement dans la tête.
Vous avez commencé assez jeune à vous intéresser au dessin pour une raison très pratique, c'est que vous avez eu une enfance un petit peu immobile, on va dire.
Oui, voilà, oui. J'ai eu quelques soucis de santé durant mon enfance, donc la scolarité, elle est plutôt venue à la maison, chez mes parents. Et j'étais très souvent dans ma chambre, et en fait, dans ma chambre, j'avais mis des grandes feuilles de papier dessin, et je passais mon temps à dessiner, ne sachant absolument pas dessiner, mais vraiment rien du tout. Et je viens de la région centre, on va dire pas très loin de Limoges. Donc après, les études que j'ai pu faire ont été dans la céramique.
D'accord. Alors ça, c'est un choix que vous avez fait, ou est-ce que c'était d'une certaine façon parce qu'il y avait beaucoup de choses autour de la céramique dans votre région? Ou est-ce qu'il y avait déjà quand même une petite volonté d'aller vers ces métiers artistiques et assez fin et difficile à exercer.
Oui, alors déjà, la matière de la terre, moi j'ai toujours aimé. La céramique, il y en avait pas mal chez mes parents, des vieilles porcelaines, comme dans toutes les maisons.
Du centre de la France. Voilà. Et de l'époque.
Et surtout de l'époque. Et surtout, c'est qu'on avait le droit, par exemple, avec ma grand-mère, quand nous faisions de la dînette avec les copines et les poupées dans le jardin, on avait le droit de lui prendre tout ce qui se trouvait dans le placard, dans ses buffets. Donc imaginez-vous faire un pique-nique avec ses assiettes. Enfin bon, voilà quoi, c'était...
Donc vous serviez de choses assez fines quand même.
Oui. Mais en même temps, je pense que cette grand-mère en question avait une entière confiance parce que ce côté précautionneux, en nous expliquant que c'était fragile, que c'était joli, je crois qu'on avait déjà ça en tête, frères et sœurs, hein, bien sûr. Hein. Donc, et j'ai pas souvenir qu'il y ait eu de la casse.
En tout cas, c'était pas du plastique.
En tout cas,
ça vous a mis à l'abri.
Voilà,
un certain
nombre
d'heures.
C'était pas du plastique, exactement.
Le lycée de la céramique, alors c'est un lycée spécifique dans lequel vous allez aller. Et là, effectivement, vous vous engagez dans cette voie.
Exactement. Donc, dans ce lycée, on a appris quoi ? On a appris d'abord le décor, le modelage, le façonnage. Nous avions aussi, bien sûr, du dessin industriel pour créer les moules. Mais moi, après, je me suis plus dirigée vers le décor. J'avais un professeur donc de céramique, Monsieur Thibault, pour ne pas le nommer, nous disait toujours il faut 10 ans de travail pour savoir faire rentrer la lumière dans une fleur, dans une rose.
Ah, cette petite phrase que vous m'avez citée déjà plusieurs fois. Ça vient de cette époque-là aussi lointaine, l'époque du lycée.
Exactement. Et quand vous voyez les décors de Sèvres, les anciens décors de Sèvres, c'est ça, quoi. Arriver à faire rentrer la lumière dans une fleur, en fait, faire vivre un bouquet, faire vivre des fleurs, ce qui n'est pas simple sur une matière qui est froide.
Et on voit comme ça peut être beau, effectivement, quand on parle de céramique, mais aussi dans certains tableaux du XVIIe et du XVIIIe siècle, où effectivement, on a l'impression que le bouquet va sortir du tableau.
Exactement.
Bon, vous faites ça. Vous allez faire des stages.
Oui.
Et vous me dites que vous faites des stages dans la région, en fait.
Alors, j'ai fait des stages dans la région. Et donc là, c'était typiquement porcelaine, un décor très académique. Et après, je suis allée du côté de Moustier-Sainte-Marie, dans les Alpes d'Haute-Provence, pour apprendre le décor moustier, ce que l'on appelle les bérins, les grotesques, ce genre de choses, et apprendre aussi... Alors à chaque fois, dans la céramique, on apprend l'histoire de la céramique.
De la céramique sur laquelle, enfin, quand vous parlez du moustier, vous avez appris l'histoire de la céramique et des décors et de cette production-là.
Oui. Après, en sortant de l'école, j'ai vite trouvé un travail où là, je faisais, c'était en banlieue parisienne, où je faisais de la reproduction de faïence ancienne. C'était un atelier, nous étions 7 décorateurs. Et là, c'était refaire des reproductions de Saint-Madé, des Rouen, des Quimper, des Moustiers, enfin ce genre de décors, enfin bien connus en France.
Là, je vais vous parler de la facilité qu'il y avait peut-être à l'époque et dans ce domaine à trouver un emploi. Parce que aujourd'hui, j'imagine que pour des jeunes décorateurs, parce qu'on continue à former des gens, hein, peut-être moins d'ailleurs qu'à cette époque-là, il y a quand même moins d'opportunités.
Il y a moins d'opportunités. Par ailleurs, il y a beaucoup de grands ateliers en France qui ont fermé leurs portes. Déjà, quand vous prenez les manufactures du côté de Limoges, elles sont vraiment très peu.
Qu'est-ce qui reste comme maison d'ailleurs à Limoges ?
À Limoges, qu'est-ce qui nous reste ?
On connaît tous Bernardo, porcelaine de Limoges.
Oui, il y a Bernardo, il y a des Houillères, il y avait la manufacture royale qui était magnifique.
Mais qui n'existe plus.
Qui n'existe plus. Après, vous avez la très belle maison, la maison Coquet, pour ne pas la citer, à Saint-Léonard de Noblas. Là, aujourd'hui, vous avez une entreprise qui s'appelle La Fabrique qui ne travaille exclusivement que pour Hermès. Donc c'est vraiment des blancs, une perfection. La porcelaine est translucide. Quand je dis translucide, vous prenez une assiette, vous mettez derrière cette assiette votre main et vous voyez votre main à travers la porcelaine, alors que la porcelaine c'est opaque.
Quand Sophie me dit ça, parce que je rappelle que nous sommes avec Sophie Massot, qui se définit comment d'ailleurs ? Quand vous voulez dire ce que vous faites, vous dites quoi ?
Ah, je suis une habilleuse de porcelaine.
C'est ça, habilleuse de porcelaine. Elle lève la main comme ça, elle fait des signes en parlant. Elle a encore du blanc sur les doigts. Oui. Donc voilà, 96, vous retournez à Paris, après voilà, être fait quelques parcours. Et là, vous rentrez dans la maison Dumont.
Oui, Jacques Dumont. Alors, la maison Jacques Dumont, c'est un atelier de céramique, de porcelaine, qui avait déjà une entreprise, eux, sur Limoges. Et là, cette entreprise, enfin, cet atelier avait un petit contrat avec la maison Fabergé, ces fameux œufs Fabergé.
Petit contrat avec une grande maison.
Petit contrat avec une grande maison. Donc, c'était l'opportunité de travailler. De toute façon, la porcelaine, c'est le souci du détail. Voilà, pour faire très simple, être peintre sur porcelaine, c'est le souci du détail.
Fabergé, grande maison, avec une production emblématique, oui. C'est l'œuf.
Oui, c'est l'œuf.
Voilà. Donc, quand vous travaillez dans cette maison Dumont, ils ne font que ça ?
Non. Nous faisions aussi des services de table, des petites boîtes, enfin, beaucoup d'objets décoratifs.
Et avec une clientèle à l'époque qui existait, qui n'est peut-être pas la même aujourd'hui.
Oui, qui n'est pas la même aujourd'hui, et il y avait beaucoup d'export. Beaucoup d'export.
C'est-à-dire la France exportait ses produits de luxe, hein, parce que ce sont des produits de luxe. C'est exactement comme si on parlait de haute couture. Là.
Tout à fait. Beaucoup vers les États-Unis, l'Asie, les pays arabes. Enfin, voilà, quoi. C'était... Les Français achètent, mais je pense que l'art à la française, dans n'importe quel domaine d'art à la française, ça incite énormément les étrangers. Voilà, c'est quand même...
Ça reste voilà. Ça, quand même.
La France, pour moi, a un raffinement.
Qui effectivement, représente un véritable engouement pour l'étranger.
Exactement.
Reste qu'effectivement... Effectivement, encore une fois, c'est aussi des objets qui valent extrêmement cher et qui doivent être absolument parfaits.
Bien sûr.
Vous avez les clés de cet atelier.
Oui.
Et vous pouvez y travailler. Enfin, le patron accepte vous travaillez
en fait, en dehors
de vos heures de production exactement. Pour la maison.
Donc, nous pouvions utiliser donc, le blanc porcelaine, utiliser les fours, les peintures. Et je me suis constituée une petite collection d'œufs.
Et en fait, que vous aviez fait pour vous ?
Que j'ai fait pour moi, pas du tout à la vente. J'avais même fait un œuf pour un de mes fils, enfin bon, pour ma mère, enfin bon, ma petite collection d'œufs. Je faisais ça en dilettante. Et il s'avère que cet atelier a fermé, en fait, il a été redécentralisé à Limoges. J'allais pas partir de Paris pour aller vivre à Limoges, bien que Limoges, ce soit une ville très très jolie. Et donc, je me suis mise à mon compte. Et il y a la facilité, c'est qu'en fait, je n'avais pas fait d'études de marché, rien du tout. J'ai acheté mon four. Je suis allée m'enregistrer à la Chambre des métiers de Paris. Et ma seule carte de visite que j'avais, c'était mes œufs. Et j'ai fait le tour des maisons, mais des belles maisons, parce qu'une fois de plus...
Alors, on va en parler, parce que oui. Ça, vous allez nous citer de très belles maisons. Oui. Là, pour l'instant, vous commencez, j'allais dire entre guillemets, à vendre votre production.
Voilà.
On se retrouve tout de suite après les Rolling Stones et on continuera parce que là, vous allez encore nous citer des noms prestigieux du luxe français, mais pour le coup, dans l'hôtellerie et la restauration. Mmh. À tout de suite.
Très bien. Yeah.
Pour ceux qui prendraient en cours, qui ne seront pas punis, dans Revenant de l'Expo aujourd'hui, nous recevons Sophie Massot. À ne pas confondre, mais j'imagine qu'on vous l'a fait oui, des dizaines de fois avec Sophie Marceau. Et moi, c'est Maria Carrier, qu'on a beaucoup comparé, en tout cas confondu avec Maria Carrie. Ils ne m'ont jamais entendu chanter, c'est pour ça sans doute. Voilà. Cela dit, Sophie, vous nous avez parlé donc de cet apprentissage, du fait que vous avez appris ce métier très particulier, très fin, très difficile, hein, du décor sur porcelaine. Vous vous dites habilleuse de porcelaine. C'est un long apprentissage, mais à un moment donné, vous vous décidez à produire vous-même. Alors, il y a une rencontre importante, me semble-t-il. C'est avec une femme qui s'appelle Ginette Angelbert.
Oui.
Parlez-nous de cette dame, parce qu'elle a une importance particulière dans votre vie, je crois.
Alors, c'est une jeune femme qui avait 80 4 ans quand j'ai rencontré Madame Angelbert, Ginette Angelbert. Elle avait un atelier qui n'était pas très loin de chez moi. Et donc, j'ai franchi la porte de son atelier. Je me suis présentée.
Nous sommes à Paris, là, on est bien d'accord.
Oui. Là, nous sommes à Paris. Et puis, effectivement, il fallait que je travaille la fleur, que je puisse faire rentrer
toujours,
la lumière.
Toujours ces fleurs.
Parce que vraiment, c'est vraiment un exercice très, très dur. Hein. On ne fait pas quelque chose comme ça de posé. Et donc, Ginette, elle m'aidait, elle m'apprenait. Et un jour, je dis à Ginette, écoutez, Ginette, je vais me mettre à mon compte. Elle me dit, mais ne faites pas ça. C'est un crève-la-faim, ce métier. C'est vraiment très dur, très dur, très dur. Bref, j'ai pas écouté Ginette, mais bon, elle ne m'en a pas voulu. À savoir que cette dame, Ginette Angelbert, c'est elle qui a conçu le service de table du prince Rainier lors de son mariage avec Grace Kelly. Donc, pareil, de la finesse, de l'exactitude, de la délicatesse, enfin, voilà, beaucoup d'exigences.
Et d'élégance. Vous vous installez. Alors, ça se passe comment? Parce qu'en fait, Vous faites toutes les démarches administratives, bien sûr.
Oui.
Vous ne faites pas d'études de marché.
Pas du tout.
Parce qu'à l'époque, on ne faisait pas de business plan.
Non. Et puis, j'avais l'impression que c'était... Tout était facile. Tout était facile. Et la première maison où je suis allée, ça a été la Tour d'Argent. La Tour d'Argent, ce fameux restaurant avec son canard au sang. Et en face, vous aviez... qui n'existe plus, les comptoirs de la Tour d'Argent. Donc, c'était une boutique, une déclinaison de la Tour d'Argent.
Nous sommes dans les années 2000
Nous sommes dans les années, je pense, 2000, oui.
À peu près.
Et je n'avais pas, effectivement, de business plan, rien du tout. Mais je suis venue avec un de mes œufs pour lui montrer. Et ce monsieur, monsieur Reichmann, qui tenait face à cette boutique, me dit, mais écoutez, je vais vous laisser de la porcelaine et vous allez me peindre des choses, ce que vous voulez. Je ne veux surtout pas de rose, je n'aime pas la couleur rose. Et c'est parti de là. Donc j'ai peint une dizaine de beurriers individuels et j'ai passé 15 ans de ma vie à travailler pour la Tour d'Argent en leur faisant des boîtes, des œufs, de la vaisselle pour cette boutique.
Alors je suppose qu'à ce moment-là, on vous demande des choses. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui imaginez un décor qui pourrait aller bien pour la Tour d'Argent. On vous suggère des sujets.
On me suggère des thématiques, mais en même temps, j'avais vraiment libre cours pour cette maison. En revanche, quand je suis allée me présenter au Café de Flore, je leur ai créé 4 décors. Et ces décors, je les ai créés en fonction de leur plafond, de leur sol, parce que c'est patrimoine historique, ce lieu mythique.
C'est là, je suis très impressionnée, c'est là où l'on voit comment l'art peut rejoindre la décoration et le raffinement. Quand on va manger quelque part, il y a effectivement ce qu'on mange,
oui. Mais
il y a aussi ce dans quoi on mange et où on le mange,
bien indépendamment
des invités qui sont autour de la table, parce qu'on peut avoir des repas exécrables dans un endroit absolument luxueux, magnifique, etc., et des repas adorables et sympathiques dans des endroits beaucoup moins prestigieux. Mais reste que l'amour du détail. C'est peut-être ça qui fait que la France est un peu différente d'autres pays quand on parle de luxe. C'est que tout va ensemble et aucun élément ne manque.
Oui, c'est vrai. C'est, encore une fois, je me répète, mais c'est de la délicatesse, c'est aussi du travail bien fait, c'est vraiment aimer ce que l'on fait, en tout cas enfin, dans ce domaine, que ça soit dans l'artisanat d'art, que ça soit dans la gastronomie, c'est des passionnés.
C'est des passionnés, c'est du travail, c'est de longs apprentissages.
Ah, puis c'est des longs apprentissages. Et puis encore une fois, tout à l'heure, là, vous disiez, Maria, au tout début de notre conversation, on apprend toujours, bien sûr qu'on apprend toujours, bien sûr.
Mais c'est pas tout. Dans les grands lieux que vous avez pu accompagner dans leur mise de table ou décor de table, il y a le Café de Flore.
Il y a le Café de Flore, oui. Mais en même temps, vous savez, enfin, je cite...
La closerie.
Et la closerie des Lilas, qui était, on va dire, la même propriétaire, et pas pareil. J'ai travaillé pour la closerie des Lilas, belle maison. Mais encore une fois, quand je cite ces enseignes, c'est pas du tout pompeux.
C'est pas par prétention.
C'est pas par prétention, parce que quand tout à l'heure vous disiez, mais comment vous. On vous appelle l'habilleuse de porcelaine. Pour moi, quand je dis l'habilleuse de porcelaine, c'est je suis une petite main qui travaille dans une grande maison de couture. En fait, on les connaît pas, ces petites mains, mais elles travaillent très bien. Donc c'est pour ça elles sont obligées d'aller travailler dans des maisons remarquables pour faire des robes remarquables. Donc oui, effectivement, il y a eu la closerie des Lilas, l'hôtel de Crillon aussi, après en l'âge de maison, la maison Porto.
J'allais vous dire, est-ce que ça fait boule de neige? Parce que vous dites au départ, j'avais mes œufs, ça me servait de carte de visite. Et est-ce que ces différentes maisons vous ont contacté un peu les unes après les autres, après avoir vu ce que vous faisiez chez les uns, chez les autres?
Oui, alors, à chaque fois, je me suis, on va dire, présentée, mais entre autres, pour la maison Porto, le linge de maison, eux faisaient un petit peu de service de table dans le terme déjeuner, et une des clientes de la boutique de Crillon avait vu mon travail et donc là, ils m'ont contactée. Mais oui, bien sûr, après, c'est de bouche à oreille.
Au-delà de ces grandes maisons, je suppose que vous aviez une clientèle de particuliers.
Bien sûr.
Ou de boutiques.
Oui, alors juste, je vais vous raconter une petite histoire.
On
si
aime
j'ai
ça.
Le temps.
Vous avez le temps.
Merci. Je me retrouve une fois dans un cabinet médical. Les médecins ont du retard, comme bien souvent. Et il y a une dame, une demoiselle qui devait sûrement avoir 90 ans, je pense. En
là
tout
encore.
Cas, voilà.
On devient demoiselle à partir de 80 ans, voilà. Avec Sophie.
J'ai toujours le feeling avec ces demoiselles. Et puis donc, on patiente. Et cette dame, on commence à discuter, on papote les deux. Puis elle me demande ce que je fais comme travail. Alors, je lui ai dit. Et là, il y a une lumière qui s'éclaire dans sa tête. Et j'avais face à moi une des anciennes danseuses de Charles Trenet. Vous vous rendez compte, Charles Trenet avec son canotier. Donc, elle a été danseuse de Charles Trenet.
Une Charlotte.
Oui, voilà, une Charlotte. Et après, elle a été la compagne de Charles Trenet. Et Charles Trenet avait un service de table avec son petit canotier. Et elle me dit, voilà, moi j'ai tout cassé, il me reste 3 assiettes, est-ce que vous pourriez me refaire...
Charles Trenet ou Maurice Chevalier?
Maurice Chevalier,
ah oui, parce que j'ai dit, quand vous m'avez dit compagne de Charles Trenet, j'étais
veuillez
un petit peu surprise,
voilà.
C'était plus... Voilà. Et
oui,
le canotier, oui, là, j'ai dit, c'est Maurice Chevalier.
Maurice Chevalier, veuillez m'excuser. Et donc, mais c'était des assiettes particulières, ce que l'on appelle assiette à calotte. C'est une assiette à peu près, on va dire, ovale, mais qui a des...
Creuse
avec des
rebords.
Dans
le centre de la France, d'où vous venez, on fait le chabreau là-dedans.
Oui, exactement.
Voilà.
Oui,
on met du vin dans la soupe.
Exactement. Et donc, je me suis renseignée dans des entreprises, dans des manufactures sur Limoges. Et effectivement, ils avaient encore ce moule. Donc, ils m'ont fait une série d'assiettes. Et j'ai réalisé ce service de table avec ce petit canotier. Voilà, donc ça, c'est quand même une histoire.
Vous avez reconstitué le service.
J'ai reconstitué le service en retrouvant les couleurs.
Alors ça, ce sont de belles rencontres, mais il y en a une qui vous rapproche de Napoléon. Alors, pas que vous l'ayez connu personnellement,
non.
Ni moi. Mais en revanche, vous avez travaillé autour de Napoléon, toujours avec les fameux œufs. C'est
oui,
une belle histoire,
oui,
ça.
Oui. Alors, j'ai eu une idée, parce que j'ai beaucoup d'idées, peut-être trop d'idées, je ne sais pas.
Jamais, on n'a jamais trop
d'idées. On n'a jamais trop d'idées. Pour moi, l'œuf, c'est la fécondité. La fécondité.
Et pas pour vous.
Oui. La fécondité, c'est la naissance. Et j'ai eu une époque où j'avais rencontré une astrologue et elle voulait que je lui fasse un thème astral sur une assiette. On ne va pas manger dans une assiette avec son thème astral, mettre ça sous mur, bon, je ne voyais pas. Et puis j'ai réfléchi, mais j'ai dit, mais pourquoi pas l'œuf? Donc, j'ai fait un œuf, enfin, avec le thème, donc cet astrologue m'a fait la sphère. Et une fois, je rediscute avec un autre astrologue, et il me dit, si tu veux vendre des œufs en astrologie, c'est pas ton thème qui serait intéressant, c'est pas le mien, c'est pas celui de ta voisine. Il faut que tu trouves quelqu'un d'illustre. J'ai pensé à Napoléon. Donc, j'ai fait les associations Napoléon et à Paris, nous avons la Fondation Napoléon. Donc, je suis allée à la Fondation Napoléon.
On dit un petit bonjour au Cercle Napoléon de Montpellier, parce que nous avons un cercle des amis de Napoléon, napoléoniens.
Oui.
À Montpellier.
Oui, absolument. Et toujours est-il que on m'a donné des adresses mail de tas de gens qui travaillaient dans cette fondation. Et entre autres, le mail du directeur de cette fondation, Thierry Lenz. Et j'envoie ma demande, j'envoie la photo de cet œuf, et je vois une heure après que j'ai un mail qui tombe. Et je me suis dit, de toute façon, ils vont trouver ça magnifique. Mais en général, dans la phrase, il y a toujours le mais. Et le mais qui casse
le reste.
Ah, qui fait tout capoter, quoi. Mais vraiment, alors je suis là, j'ouvre pas. Toujours est-il que j'ai ouvert. Et son mail était « Si vous arrivez à me convaincre, c'est vendu ». Et en fait, c'était en 2015. Et en 2015, nous avons eu à Paris cette très belle exposition de Napoléon à Sainte-Hélène. Et donc, une délégation de Sainte-Hélène est venue, entre autres, monsieur et madame Capps, monsieur Capps, qui était à l'époque gouverneur, en 2015. Et en général, quand les délégations viennent pour des congrès ou autres, on leur offre une cravate avec des abeilles, un buste de Napoléon et aux dames des ballotins de chocolat. Et là, il voulait quand même marquer le coup. Donc, cet œuf a été offert à la femme du gouverneur. Donc, j'étais fière.
J'imagine.
Fière. Voilà.
Alors, sans indiscrétion, est-ce que je peux vous demander ce que révélait le thème astral ou astrologique, plus exactement, de Napoléon?
Je ne sais pas, parce que je ne sais pas lire un thème astral. Mais en tout cas, Napoléon est né sous le signe du lion. Donc, c'est solaire, quoi. Il brille. C'est quelqu'un qui a fédéré, d'ailleurs, enfin, comme tous les lions. Et là, je veux pas trop m'avancer, mais en fait, bon, Napoléon, sa date de naissance dans l'état civil est le 15 août, mais on l'a déclaré le 15 août, mais on ne sait pas le jour exact où il est né. Peut-être un 6, un 3 août, on sait pas, quoi. Mais en tout cas, ils l'ont déclaré le 15 août.
Et quelle vie. S'il avait pu tout savoir avant, oui. Peut-être qu'il aurait fait les choses différemment.
Probablement.
Cela dit, il nous reste deux petites minutes pour en parler. Là, on parle beaucoup des décors, de cet apprentissage extrêmement long, de la finesse, de la précision du trait. Mais vous avez un support, c'est la porcelaine. Donc vous ne fabriquez pas du tout la porcelaine.
Non, alors
vous faites comment alors pour...
Alors, j'achète mes pièces à Limoges. J'achète mes pièces à Limoges. Il y a encore des fabriques de porcelaine qui créent. Et puis, bien souvent, on peut faire créer nos propres moules. Donc, ça existe encore. Il n'y a pas que du chinois sur le marché français.
Avec des modèles favoris, je suis allée dans votre atelier, vous avez des choses extrêmement pures, extrêmement simples. Il n'y a pas dans les formes elles-mêmes, hein, je ne parle pas des décors. Donc ça, vous pouvez choisir votre
bien
décor,
sûr, bien
votre
sûr.
Décor, votre forme.
Bien sûr. Oui. Ils sont vraiment très doués. Il y a une multitude de pièces, de services, à tout point de vue. Hein.
Vous prenez dans ce qui existe déjà ou vous avez eu la possibilité de faire fabriquer uniquement pour vous ?
Moi, j'ai déjà fait fabriquer uniquement pour moi. Mais bon, là, c'était différent. J'ai réalisé des vases avec des petits couvercles pour des urnes funéraires.
Ah,
parce
oui
que j'ai aussi fait
ça fait partie des choses qu'on peut vous demander.
Mais bien sûr,
on peut vous commander ça.
Voilà. Et puis vous avez un épitaphe bien personnalisé, même voir des urnes funéraires pour des animaux, des chiens ou des chats.
On va parler de tout ça tout de suite après, mais voilà que David Bowie s'invite, on va pas le repousser,
non,
dans cette émission. À tout de suite.
I dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Sophie Massot est notre invitée, elle est habilleuse de porcelaine. On s'est quitté il y a quelques instants, juste avant d'écouter David Bowie, sur le fait que vous preniez des commandes. Alors, ça peut être des commandes effectivement de services de table, de petit déjeuner, de choses comme ça, très personnalisées, mais aussi de choses plus particulières comme les urnes funéraires. C'est vrai que je n'y aurais pas pensé.
Ah, mais bien sûr. Et puis, c'est toujours délicat hein, de faire des urnes funéraires, mais oui, bien sûr. Et puis, les personnes ont leur phrase, leur épitaphe, même faire des urnes funéraires pour des animaux, des chiens, des chats.
Je veux commander une urne funéraire, qu'est-ce que je fais ? Il faut, parce que il faut s'y prendre à l'avance, et souvent, on ne peut pas décider
de
ça.
Ah bon, on ne peut pas décider. Alors, en général, bon, encore une fois, je ne sais pas comment ça se passe, mais...
C'est une question pratique.
C'est une question pratique. Je pense que quand on récupère les cendres, c'est dans un cylindre... Mm-hmm. Qui, je pense, est scellé, je crois. Mmh. Et de là, vous pouvez après l'intégrer dans une urne, une très belle pièce. J'en ai fait plusieurs, d'ailleurs, d'urnes. Donc, non, c'est... Mais en même temps, vous savez, la céramique, on peut faire plein de choses. Je fais même aussi des carreaux...
Alors là, on n'est plus dans la porcelaine, on est dans la céramique.
Disons que la céramique, c'est générique.
Ah.
Et dans la céramique, vous avez le grès, vous avez la faïence, vous avez la porcelaine. Alors après, quand je dis des carreaux de céramique, c'est en général des carreaux de faïence, mais on pourrait faire aussi des carreaux de porcelaine pour des crédences de cuisine, pour des fonds de salle de bain, pour un revêtement de table.
Pour intégrer ça effectivement dans un décor de maison.
Exactement.
Mais aussi, est-ce que ça serait possible d'imaginer, par exemple, dans un restaurant ?
Oui.
Faire un mur.
Ah mais j'ai travaillé, j'ai eu la chance de faire un panneau mural pour un restaurant de Montpellier, le Café du Roi, qui se trouve, je crois que c'est la place du Roi, vers les Arceaux.
On les salue, hein.
Exactement, bonjour à vous. Et d'ailleurs, cette place est mythique parce qu'il y a un arbre qui s'est déraciné, je crois que c'est un mi-coucoulier. Et là, nous avons un joli bon restaurant. Vraiment, quand je dis bon, il est bon. Et donc, je leur ai fait un panneau avec leur emblème, le Café du Roi. Donc oui, oui, bien sûr. Et j'aimerais par ailleurs me diriger dans la décoration murale.
Nous allons en parler parce que ça, c'est encore un autre métier. Enfin, c'est le même métier, mais oui. C'est une autre application de ce métier.
C'est une autre application.
Vous dessineriez des décors à la demande du propriétaire, vous les réaliseriez, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus qu'à les poser.
Exactement, exactement.
Donc ça, c'est une bonne adresse à retenir. Donc, souvenez-vous, Sophie Massot.
Voilà, et à savoir que, par exemple, je ne sais pas, vous prenez votre crédence de cuisine, peut-être que vous avez un décor spécifique, comment dirais-je, même voir, je donne des cours de peinture. Et une dame, une fois, voulait refaire ses carreaux de salle de bain et je lui ai dit, écoutez, ce qu'on peut faire dans vos cours, vous pouvez créer vous-même vos propres carreaux. Voilà, donc...
J'imagine la fierté de rentrer dans cette salle de bain quand on fait visiter les amis, cette salle de bain, c'est
voilà,
moi qui ai fait
ça.
Les carreaux.
Et c'est vrai, et puis... À l'époque où je travaillais à Paris pour ces grandes maisons, pour un code de déontologie, jamais j'aurais fait un décor de chez l'un, de chez l'autre. Enfin bon, on ne va pas plagier, quoi. C'est...
On peut vous trouver dans votre atelier. Donc, si on veut passer commande,
oui.
Vous donnerez vos coordonnées tout à l'heure. Mais là, je veux dire que vous êtes dans la rue des Ateliers. C'est la rue du Général Vincent, je crois.
La rue du Général Vincent.
Du côté de Figuerolles, qui s'appelle rue des Ateliers.
Alors, oui, oui et non. Disons que c'est la rue du Général Vincent.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. C'est mon adresse, je connais mon adresse. Mais simplement, l'an passé, les habitants de ce quartier, entre autres, des ateliers et une galerie d'art, parce que l'atelier où je suis appartient dans une galerie d'art qui s'appelle Art Factory, tenue par Étienne Schwartz.
On va le recevoir bientôt.
D'accord,
il est prévu dans nos programmes.
Et donc, à côté, vous avez un graffeur, Kesa Graffiti, et ils ont fait une petite fête de quartier, comme on peut faire gentiment, et ils ont fait une fausse plaque, et monsieur le maire, monsieur de la Fosse, en a eu vent, donc en fait... Il s'est invité à cette fête, alors ils étaient un petit peu gênés, mon Dieu, la réaction. Et en fait, monsieur le maire a retiré le drap et est apparue cette fausse plaque. Bon, après, bien sûr qu'ils ont retiré. Mais cette rue devrait, dans un proche ou futur avenir, devrait être rebaptisée, en tout cas, rue du Général Vincent.
Sous-titrée, dit
la rue des Ateliers. Donc on l'attend... On attend cette plaque.
Et vous feriez cette plaque ?
Oui.
Vous la réaliseriez ?
J'ai vraiment envie de la faire parce que on peut très bien faire, vous savez, votre numéro de
oui,
maison en céramique, le numéro
ça,
5.
Ça, c'est des choses que vous faites aussi ?
Ça, je fais aussi les plaques de maison. Mais bien sûr, oui, je m'engagerai même à faire cette plaque en céramique, avec un beau lettrage d'une belle couleur.
Ça serait la moindre des choses,
voilà.
Que le lettrage au moins soit beau.
Voilà, d'une belle sobriété pour agrémenter cette rue, oui, bien sûr.
Alors, vous nous avez parlé donc de la céramique en général. Il se trouve que dans votre atelier, où vous travaillez,
oui.
Où on peut vous voir travailler, et où vous exposez, et où vous vendez.
Oui.
Donc, c'est un atelier boutique.
Oui.
Vous êtes lancé dans une autre production qui est très différente. Alors, j'allais dire qu'il s'oppose à la porcelaine parce que ce que vous faites est très brut. Mais en même temps, vous gardez toujours ce raffinement cette précision du trait, cette élégance,
oui.
Et dans les couleurs et dans les motifs. Mais j'aimerais que vous en parliez.
Alors en fait, là aujourd'hui, je me suis mise à la terre, en fait, à la faïence. Donc, je n'ai pas de tour parce que je ne suis pas potière et j'ai aucune
prétention. Mais vous avez un four, toujours.
Mais j'ai toujours mon four. En revanche, il y a une technique qui s'appelle la technique à la plaque. Donc, c'est comme si d'ailleurs, c'est simple, vous prenez un rouleau à pâtisserie et vous allez étaler votre terre. Et là, vous allez créer
comme
des formes.
Comme vous étendriez de la pâte à tarte.
Exactement. Pareil. Alors après, bien sûr, tout ça, c'est un métier. Quand vous étalez votre pâte, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de bulles.
Alors on va dire pourquoi. C'est parce que quand il y a des bulles, on fait un peu de terre cuite, je m'en souviens bien. Quand il y a des bulles et qu'on met les pièces au four, elles explosent.
Exactement. Elles explosent, elles se fissurent. Donc je suis toujours, je suis toujours dans cet apprentissage, voilà. J'apprends. Alors, quand Maria, vous disiez que c'était toujours aussi fin, effectivement, étant donné que maintenant je peins sur une matière qui n'est pas émaillée, je passe l'émail une fois que ma peinture
est posée.
Donc, ça veut dire que c'est une matière qui est très poreuse. De fait, le pinceau...
Ne glisse pas. Sur de la porcelaine.
Comme sur de la porcelaine. Donc, j'ai quand même réussi à faire des traits d'une finesse, enfin, à mon sens, je pense, en tout cas, enfin, c'est ce que l'on m'a dit, très fin, parce que je ne peux pas m'empêcher, quoi. Aujourd'hui, je fais des pièces qui sont, bien sûr, moins, comme on dit, enfin, moins chiadées, quoi, dans le sens où il y a moins d'éléments dessus, il y a moins de fleurs, il y a moins de peinture, il y a moins d'or, il y a moins de reluces.
En même temps, ça correspond quand même aussi à une évolution.
Mais c'est une évolution.
De notre quotidien,
oui. Hein,
et des générations qui arrivent là maintenant.
Bien sûr.
Qui sont peut-être moins sensibles à ce que nos grands-mères aimaient et à ce que nous avons peut-être aimé nous aussi, tout en voulant quand même cette qualité particulière.
Exactement. Disons qu'aujourd'hui, le décor est beaucoup plus graphique. Voilà. Il y a du décor, c'est des lignes, c'est quand même des formes, mais c'est beaucoup
plus...
C'est
des points, c'est des traits.
Voilà, mais c'est beaucoup plus graphique. Il y a encore de la fleur, parce que mine de rien, il faut quand même faire de la fleur, c'est joli. des animaux, bien sûr, ouais. Mais qui sont beaucoup plus... qui sont moins détaillés, voilà, c'est ça.
Il y a plus moins stylisé.
Plus stylisé, avec le trait de pinceau quand même très fin.
Très fin. Moi, je suis venue dans votre atelier. Donc, c'est ça qui m'a arrêtée. Hein. C'est que je cherchais une autre adresse et je suis passée dans votre atelier et j'ai été arrêtée par quelque chose. Justement, ce qui m'avait beaucoup intéressée quand je me suis arrêtée dans ce que j'ai vu, c'est ce côté un peu primitif. C'est-à-dire que là, vous faites non pas des cache-poux, mais des pots pour mettre les plantes. C'est-à-dire que vous mettez la terre directement dans le pot, il y a un trou au fond. Et votre pot n'a pas besoin de cache-pot.
Exactement.
Quand vous achetez le pot que vous faites, bah vous achetez le cache-pot et le pot en même temps.
Voilà, parce...
Oui ?
Oui, non. Parce qu'en fait, un pot, c'est basique. Et quand on veut avoir de la couleur, autre chose, on doit acheter un cache-pot. Mais le problème, soit on ne trouve pas la couleur du cache-pot, soit on ne trouve pas la taille du cache-pot, soit on ne trouve pas la matière du cache-pot. Donc moi, je fais des pots de fleurs où je peins, voilà quoi. On n'a pas besoin de cache-pot. Toujours ce côté... En fait, je crois qu'il y a aussi... En moi, je pense, un côté pratique.
Ce qui m'a... on revient peut-être au début de l'émission où vous nous disiez que vous aviez tous des choses entre les mains, dans votre famille, capables de réparer, capables de changer la destination d'un objet, et donc un sens pratique qui va avec ça. C'est difficile quand on fait de la mécanique de ne pas avoir le sens pratique, comme le fait votre frère, etc.
Oui.
Même s'il travaille sur des voitures très anciennes. C'est, voilà. Cela dit, ces cache-pots sont beaux parce qu'ils sont... Moi, je les trouve bruts, quoi. J'allais dire, c'est presque comme si un enfant, je ne parle pas du décor, mais comme si un enfant les avait fabriqués. Il y a à la fois ce côté très premier, primaire, primal, et ce côté quand même de l'expérience que vous avez, c'est-à-dire une bonne trentaine d'années, voire plus, de dessins précis.
Alors, là, j'ai travaillé la terre, et il me faudra des années et des années pour arriver à travailler la terre comme des gens peuvent travailler depuis des années. Moi, je m'y suis mise il n'y a pas des années. Donc, Je n'arrivais pas à avoir cette exactitude, à faire un joli pot, à faire un joli cylindre, enfin voilà quoi.
Donc vous vous êtes servi de
voilà,
ça.
Voilà. Donc les côtes n'étaient pas bonnes. Donc je me suis dit, autant faire quelque chose de naturel, simple, comme aujourd'hui on pourrait voir des pièces, je sais pas, on vous propose une assiette qui ne soit pas spécialement droite.
Oui.
Voilà. Mais comme j'étais pas satisfaite de mon travail, j'ai repeint dessus, on va dire, avec des couleurs comme j'aime, enfin voilà, pour l'habiller, toujours l'habilleuse de porcelaine, quoi. Mais c'est vrai que la terre, c'est un métier, quoi.
Aujourd'hui, vous pouvez donc offrir à votre clientèle à la fois des choses très traditionnelles, très fines, sur commande. Ces choses qui sont plus rugueuses, je vais
oui.
dire, plus brutes,
oui.
mais qui correspondent aussi à des décors plus actuels. À savoir que tout, évidemment, passe au lave-vaisselle, tout passe au four.
Exactement, même voire au micro-ondes.
Et au micro-ondes, c'est vrai, j'ai oublié le micro-ondes. C'est quand même pas une technique très récente, mais ouais. J'avais oublié le micro-ondes. Et je me disais, mais... on peut finalement avoir ce qu'on veut, quoi. Le nombre d'assiettes qu'on veut, les formes qu'on
Bien
veut.
Bien sûr, et puis surtout le décor que vous voulez, quoi. Des petites choses basiques, banales, mais par exemple, je fais aussi l'assiette de l'enfant qui vient de naître, avec son prénom et que sa date de naissance. Je fais la boule de Noël, mon premier Noël, quand on a 75 ans et qu'on retrouve sa boule de Noël, mon premier Noël, je trouve que c'est quand même pas mal, quoi.
Oui. On va rappeler le nom, donc Sophie Massot, vous l'avez compris. On va donner l'adresse exacte de votre atelier, parce que rien que le... Bon, il ne faut pas trop parler, pas faire de bruit, pas secouer la table, mais non. Rien que le fait de pouvoir assister à votre travail, c'est intéressant. On peut rester des heures à vous regarder faire avec une fermeté dans le trait assez étonnante.
Puis j'aime bien expliquer en général. Voilà. J'ai toujours ce côté.
Donc on va donner l'adresse exacte. Donc c'est rue du Général Vincent,
le numéro 5.
5 rue du Général Vincent. Et donc j'espère que des gens vont passer dans cette rue. C'est tout près de Plan Cabane.
C'est juste à côté de Plan Cabane.
C'est un arrêt de tram. C'est l'arrêt de tram 3.
Oui.
Qui va vers Juvignac, oui. dans cette direction-là.
Et si je puis dire, c'est que cette rue a été refaite à neuf. Elle est vraiment jolie à souhait, avec de beaux arbres qui vont pousser, qui nous donneront de l'ombrage. Non, c'est vraiment une très jolie
Je
rue.
Je ne peux que vous encourager,
Merci
vous les
beaucoup.
Auditeurs, à aller dans cette rue, à voir le travail de Sophie. On va quand même parler de votre actualité. Je crois qu'il y a quelque chose qui doit se passer à Saint-Gély. Et on
oui.
peut vous retrouver et prendre contact avec vous si on veut commander. Au marché de Noël.
Oui, alors voilà, donc je vais faire le salon de l'artisanat à Saint-Gély-du-Fesque les 25 et 26 novembre. Et après, à partir du 2 décembre, ce jusqu'au 30 décembre, le marché de Noël, alors qui cette année sera au Pérou, parce que l'esplanade, apparemment, il y a encore des travaux. Et je ne serai pas seule dans ce stand, le stand hivernal, on appelle, avec deux autres personnes. Donc, la maison Infuse Montpellier, qui, eux, font de la tisane. L'autre maison, Passionnément Biscuit, qui fait des biscuits, et moi qui fais le contenant pour boire une bonne tisane.
Donc ça peut faire des cadeaux absolument
Exactement.
Complets. Merci beaucoup d'être venu jusque-là.
Merci à vous, Maria.
Tout ce que vous nous avez raconté.
Merci
On a voyagé
beaucoup.
dans un Paris luxueux, mais aussi
oui.
dans les temps modernes de notre décoration quotidienne. Merci à Stéphane qui était à la technique. Merci à Florian qui est stagiaire du CRFP qui a assuré une partie de la technique aujourd'hui. Merci aux éditeurs qui ont
oui.
écouté cette émission.
Merci aux éditeurs.
Et puis, on est avec des hommes en musique, alors quand même, ça va pas, ça, Patti Smith,
oui.
et puis l'émission sera terminée. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine. Cette émission est diffusée donc maintenant en direct, mais aussi sera rediffusée le dimanche à 20h, et puis bien sûr, vous nous retrouvez sur Radio FM, et en particulier sur ces podcasts. Merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton pack of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes. Here she comes, crawling up my stair. Here she comes, wasn't through the hole in a period dressing. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling that I'm gonna make my mind. And I hear this knocking at my door. Hear this knocking at my door.
Stadium, 20,000.